Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
Bonjour, vous êtes sur le podcast de Privacy Watchers. Et comme vous l'avez remarqué, nous commençons un épisode un peu spécial pour ce 14 juillet en français. Bonjour Daphné, merci de m'avoir reçue et quel honneur de pouvoir partager une discussion avec toi aujourd'hui sur le thème, donc je l'annonce, de la vente des données personnelles. Faut-il vendre ces données personnelles?
Merci à toi Alice, l'honneur est à nous. Donc vous êtes chez vous. Et je vais vous présenter. Alice est une spécialiste de la protection des données informatiques au sein du département d'audit informatique et de conformité du groupe Zeder au Mexique. Zeder est une entreprise allemande et le principal fournisseur mondial des systèmes et équipements pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et la technologie industrielle permettant la prochaine génération de mobilité. Alice possède une vaste expérience et des connaissances en matière de protection des données, de cybersécurité et des droits des affaires. Elle a commencé sa carrière dans le domaine de la protection des données personnelles en 2016 dans une société singapourienne qui développe des solutions d'analyse de foule à travers des capteurs de signaux émis par des téléphones portables. Alice a également travaillé en tant que consultant juridique spécialisé dans la confidentialité des données et la cybersécurité à Bangkok et au Mexique. Alice est titulaire de deux masters en droit des affaires internationales obtenus à Paris et à Bangkok et d'un certificat en stratégie d'entreprise en protection des données obtenu au Mexique. Elle est également titulaire du certificat en informatique pour les avocats de l'université de Harvard et du CIPPI, Certified Information Privacy Professional Europe, de l'AIPP. Ah, j'ai eu du mal à prononcer Harvard à la française. Hein.
C'est pas la seule. Nous aussi, ça nous pose beaucoup de problèmes. Donc, non, au contraire, c'est bien dit à la française.
Ok. Donc, Alice, pour commencer avec ce sujet très intéressant, la première question, ça serait: qu'est-ce que la patrimonialité et extra-patrimonialité des données personnelles?
Alors, c'est une excellente question parce que justement, on est dans le thème de la vente des données personnelles. Et donc, il faut éventuellement se pencher sur la question de la patrimonialité et de l'extra-patrimonialité, qui sont deux termes qui, en fait, regroupe d'un côté ce qui a trait à la vente, à ce qui est évaluable en argent. Donc, pour donner un exemple concret pour notre audience, si par exemple demain je voudrais vendre ma voiture, eh bien c'est simple, ma voiture fait partie de mon patrimoine, mais à partir du moment où je la vends à quelqu'un d'autre, elle sort de mon patrimoine et j'en tire en échange une valeur monétaire. Mais éventuellement, un patrimoine, il est aussi composé de droits et d'obligations. Voilà, donc ça, c'est pour un peu resituer. Maintenant, on parle également d'extra-patrimonialité. Et pourquoi on aborde aussi l'extra-patrimonialité? Parce que nous, les êtres humains, on a aussi des idées, on crée aussi des choses qui sont abstraites. Et donc, toutes ces choses-là, elles sont pas forcément, elles peuvent être évaluables en argent, mais à l'origine, ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées à notre personnalité, à notre qualité d'humain. Donc, à partir de là, elles n'ont pas elles ne sont pas évaluables en argent, si je puis dire. Et les données personnelles, elles se trouvent exactement entre ces deux hémisphères. D'un côté, on aurait l'impression qu'on pourrait vendre nos données personnelles, et de l'autre, on aurait l'impression qu'on ne pourrait pas les vendre. Alors, pourquoi on pourrait avoir l'impression qu'on peut les vendre, ces données personnelles? Donc là, on va rentrer dans un cas un petit peu plus pratique. Si je visite un site internet, je suis sur mon ordinateur, parfois je reçois ce qu'on appelle des cookies. Donc en fait, c'est plein de petites entreprises qui vont s'apercevoir que Alice Oliva va visiter tel site internet, et à partir de là, elles vont considérer que ce site internet, c'est, si par exemple je suis sur une vente de chaussures, Alice est intéressée par les chaussures. Et donc, elles vont pouvoir utiliser cette information pour ensuite, une fois que je vais visiter un autre site internet, m'envoyer des publicités. Et donc, c'est ce qu'on appelle des publicités ciblées. Elles se sont aperçues que j'étais intéressée par des chaussures. Le lendemain ou dans la journée, je reçois une publicité pour, évidemment, m'inciter à acheter ces chaussures ou à aller sur un autre site internet. Évidemment, tout ça, ce sont plein de petites entreprises qui se payent les unes les autres pour pouvoir inciter l'individu, Alice, à acheter un certain bien. Donc, évidemment, il y aura une opération économique qui sera réalisée. Ça serait le cas pratique de la vente des données personnelles. Malheureusement, pour le moment, en tous les cas en Europe, moi, Alice, je ne tire aucun bénéfice de cette vente de mes données personnelles. Mais il peut arriver, par exemple aux États-Unis, que je puisse décider à un moment de pouvoir tirer un bénéfice, moi aussi, de cette vente de ces données personnelles. Maintenant, un cas pratique sur la donnée personnelle extra-patrimoniale. Pourquoi elle est extra-patrimoniale? Parce qu'en réalité, on ne pourra jamais séparer Alice de ses données personnelles. Je vous donne un exemple. Je décide de vendre ma voix. De vendre ma voix. Bon, en principe, la vente, ça signifierait que je me détache complètement de mon bien. Au moment où je vends mon bien, je ne le reverrai plus. Je ne pourrai plus l'utiliser, je ne pourrai plus le donner, je ne pourrai plus en retirer des fruits. Eh bien, avec ma voix, malheureusement, même si je décide de la vendre, eh bien, demain, je pourrai toujours passer des coups de téléphone avec ma voix, avec ma façon de parler, avec les mots que moi, Alice, j'utilise. Et donc, on s'aperçoit que la donnée personnelle, même si on souhaiterait pouvoir la vendre, eh bien, on ne pourrait pas complètement la vendre. Peut-être maintenant, il y a des débats qui se sont ouverts à partir de cette, de savoir si on veut, ou on peut, ou on doit vendre nos données personnelles. Et il y a des gens qui ont dit, pourquoi on ne catégoriserait pas les données en disant, dans un cas, il y a les données telles quelles, qui ne sont pas personnelles, et dans un autre cas, il y a les données qui sont personnelles, et donc du coup, qu'on ne pourra jamais vendre. Bon. Ok, allons plus loin. Si on parle de données de localisation, d'accord, ou de données IP adresse, c'est-à-dire que par exemple je suis sur mon ordinateur et il y a un petit numéro qui identifie mon ordinateur et qui l'envoie au site internet que je visite. En réalité, on s'aperçoit que dans le cas de la localisation, si j'utilise mon téléphone pour aller à la boulangerie, eh bien, malheureusement, on pourra toujours traquer ma destination à travers mon téléphone. De la même manière qu'on pourra traquer mon trajet sur Internet, sur les différents sites que j'ai visités. C'est ce qu'on appelle l'IP address. Et dès lors, c'est forcément lié à quelqu'un. Je ne suis pas un robot, donc même si à l'origine on a l'impression que ça n'est pas une donnée totalement personnel, parce qu'on parle de localisation ou d'un téléphone ou d'une voiture. Si la voiture est intelligente, si mon téléphone est connecté à Internet, eh bien, on pourra se faire une idée de mon trajet pendant la journée, de la visite de mes sites Internet. Et donc, ces données-là seront forcément liées à des données personnelles. Et d'ailleurs, le GDPR, le Règlement général de protection des données personnelles qui s'applique en Europe, identifie ces données-là comme complètement des données personnelles. Mais ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, par exemple, qui peut être le cas aux États-Unis, où en fait, ils considéreront que ces données personnelles ne seront que données personnelles lorsqu'elles sont combinées, attachées à d'autres données. Et c'est aussi, par exemple, bon, j'ai parlé de voitures, mais on peut parler des villes intelligentes. Au début, les villes intelligentes, on a l'impression qu'il n'y en a pas de rapport avec les individus, parce qu'on parle d'éclairage des villes qui vont se réduire en fonction du passage des véhicules. Donc ce serait génial parce que du coup ça permettrait d'économiser la lumière dans les villes. Bon, mais en réalité encore une fois, c'est lié à un individu, ça sera lié au passage des véhicules devant cet éclairage. Donc forcément, on aura également une idée du nombre de passages des gens à côté de cet éclairage. Et encore une fois, on retombe dans la donnée personnelle. Donc c'est vraiment une question qui n'est pas facile, Daphné. Mais voilà, pour donner un peu une idée générale de vendre ou pas vendre, je pense qu'il fallait refaire un peu cette séparation entre les deux et peut-être qu'on est plutôt dans quelque chose d'hybride. C'est une idée.
Bon, on va continuer avec les questions difficiles, Alice. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment important parce qu'à la fin, tu mets l'idée de « on ne peut pas séparer l'individu des données personnelles ». Et moi, je trouve que c'est l'idée la plus importante pour parler de ces régimes hybrides dont tu en parles. Mais donc, la deuxième question, ça serait « quels sont les avantages d'appliquer un régime juridique de patrimonialité ou pourquoi est-ce que c'est-il important d'avoir un régime juridique des données personnelles? Par exemple, il y a des régulations à la Californie, aux États-Unis, qui obligent les organisations ou les entreprises d'informer si elles sont en train de vendre les données. Qu'est-ce que tu en penses de ce type de régime et existe-t-il déjà dans le monde une loi à part de celle-ci de la Californie ou une tendance qui pencherait plus pour un régime de patrimonialité ou extra-patrimonialité des données personnelles?
Alors, c'est une très bonne question et je vais reprendre point par point ce que tu viens de dire. Donc, si tu veux bien, on va commencer par la loi californienne. C'est passionnant parce qu'effectivement, c'est à l'opposé de ce qu'on a avec le RGPD, donc le règlement qui s'applique en Europe. Et ce que tu viens de dire, c'est que autant le RGPD a l'air de dire non, il faut pas vendre ses données personnelles et était assez tranché là-dessus. Et donc, on pourrait penser qu'il met la donnée personnelle dans le régime extra-patrimonial. Autant aux États-Unis, on pourrait penser l'inverse, c'est-à-dire qu'il considère que la donnée personnelle peut entrer dans le domaine de la patrimonialité, c'est-à-dire qu'on peut, dans le droit de la propriété, et l'encadre. Alors, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est l'acte de CCPA, California Consumer Privacy Act, donc la loi de protection des données personnelles en Californie, qui explique que donc c'est pas uniquement l'individu, pour être plus précis, ça va être le consommateur qui pourra décider de vendre sa donnée personnelle à la condition d'être suffisamment informer sur les finalités de l'utilisation de ces données personnelles, qui vont être réalisées par soit un individu, un autre individu, soit une entreprise. Donc ça, c'est très important. Et du coup, qui part de l'idée qu'il y aura un total contrôle de l'individu sur sa donnée personnelle. Et en fait, ça pourrait être, donc là, je reviens sur ta question des avantages de la patrimonialité des données personnelles, parce que quel est l'avantage d'un individu de pouvoir vendre ses données? Pas comme n'importe quelle opération économique, faire des bénéfices, bien sûr. Donc, ça serait déjà un premier avantage pour nous, de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de rééquilibrer les pouvoirs entre... Avant, c'était que les entreprises qui pouvaient faire un bénéfice sur nos données personnelles, c'est ce qu'on a dit au début. Aujourd'hui, on considérait, avec le système américain, qu'on pourrait nous aussi en bénéficier en disant, ben voilà, comme je vends ma voiture ou ma maison, je peux décider du prix, je peux décider des conditions de vente, je peux décider à quelle fin ces données vont être utilisées. Et donc, on s'aperçoit bien qu'il y a toute une catégorie de droits que je peux appliquer. Et c'est forcément un bénéfice pour les individus. Bon, premier avantage. Le deuxième avantage, ce serait que si on considère que donc il y a un droit de vente sur les données personnelles et que c'est officialisé, eh bien tout autour il va y avoir des règles qui vont surgir, des règles aussi officielles qui vont pouvoir dire ben voilà, qui vont encadrer cette vente. Comme j'ai dit, donc on va pouvoir louer nos données, on va pouvoir faire tout un tas de choses, mais que ce sera bien encadré pour permettre une protection quand même des individus. Et la troisième avantage que j'y vois, ça serait éventuellement qu'on pourrait éclairer les gens sur la nature du régime à appliquer aux données personnelles. Parce que jusqu'à présent, on a bien vu qu'on était un peu indécis. Est-ce que c'est patrimonialité? Est-ce que c'est extra-patrimonialité? On ne savait pas trop bien. Bon, là, au moins, quand on dit à une personne, c'est un droit... Vous pouvez utiliser un droit de propriété sur vos données personnelles. Cling, les gens y réagissent, ils savent de quoi on parle. Bon, mais forcément, quand tu me demandes les avantages, moi j'ai un peu envie de te parler aussi des désavantages, Daphné. Forcément, j'ai envie de débattre.
Non, allez, vas-y. Quels sont les désavantages?
Alors, dans les désavantages, si on parle de bénéfices pour les individus. Bon, mais c'est quoi en réalité ce bénéfice? Si on se penche un petit peu sur la question, il y a quelques entreprises qui ont décidé de chiffrer les données personnelles pour qu'on ait une idée de qu'est-ce que ça représente. Tout comme une maison, c'est pas parce que je contrôle la vente de ma maison que je vais pouvoir dire qu'une maison qui vaut, par exemple, 200 000 euros, je vais pouvoir la vendre 1 million d'euros. Parce que j'ai décidé, ça ne marche pas comme ça, il y aura un marché forcément. Et ben, c'est la même chose pour les données personnelles. Donc, si je décide... Donc, en fait, il va falloir que je me réfère à un taux. Et cette entreprise, ces entreprises-là, c'est ce qu'elles ont essayé de faire. Et en fait, on s'est aperçu que si je vends, par exemple, mon adresse email ou ma voix... Ou par exemple ma localisation pendant une certaine période, en réalité ça va m'apporter quelques euros, 2-3 euros, c'est pas beaucoup. Et si on fait une comparaison avec les entreprises GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, elles, vu qu'elles ont à chaque fois des milliers de personnes qui partagent ces données personnelles, elles font un bénéfice énorme. Donc, quand on parlait tout à l'heure de rééquilibrer les pouvoirs entre un individu qui peut enfin vendre ses données et puis l'entreprise qui, elle, a toujours vendu les données, en réalité, cet équilibre, il est presque inexistant. On est d'accord. Et puis, en plus, quand on dit vendre nos données personnelles, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que c'est juste nos données personnelles telles que définies par le RGPD ou c'est également les données sensibles qui entrent en jeu. Quand je dis données sensibles, ça peut vouloir dire mes idées politiques, ça peut vouloir dire si je suis rattachée à un syndicat, ça peut vouloir dire mon opinion. Bon, plein de choses. Et là-dessus, bon, est-ce qu'on veut vraiment vendre ces données-là? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans quelque chose d'un petit peu dangereux? Et là-dessus, il y a le cas de Cambridge Analytica. Alors, pour refaire un petit peu l'histoire, simplifiée bien sûr, Facebook avait demandé à une start-up de analyser certaines données qu'elle récupérait sur sa plateforme Facebook. Bon, jusque-là, on peut considérer que tout va bien. Sauf que malheureusement, la start-up, elle a détourné ses finalités. Elle a fait autre chose et elle a utilisé les données à l'origine partagées par Facebook pour alimenter les campagnes politiques, pour dire ben voilà, certains électeurs ils vont plutôt voter Trump. Et donc, on s'aperçoit bien que tant Facebook, mais surtout les individus, ils ont été complètement manipulés parce que peut-être qu'ils avaient accepté que ces données-là soient partagées, ces données sensibles, mais à certaines conditions. Or, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont été manipulés parce que ces données ont été utilisées à d'autres fins. Donc, malheureusement, c'est toujours un peu risqué de dire oui à quelque chose si derrière, on n'a pas un contrôle complet. Et c'est peut-être un peu ce que je critiquerais aux États-Unis, c'est comment l'individu qui a un certain contrôle sur ses données personnelles arriverait à éviter ce genre de situation où une entreprise en fait va toujours pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. Et donc c'est là-dessus j'aimerais, du coup tu l'as deviné, moi mon avis personnel c'est plutôt que ce soit un régime extra-patrimonial en tous les cas qui prédomine parce que j'ai l'impression qu'il y a une protection beaucoup plus importante des données personnelles des individus. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre le règlement général de protection des données personnelles en Europe, c'est tellement important cette protection des données personnelles que une des règles du GDPR, du RGPD, pardon, c'est que même des entreprises qui sont implantées à l'étranger pourraient être affectées par les règles du RGPD pour le simple fait de traiter des données personnelles de personnes qui se trouvent en Europe. Donc on voit bien, et c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité d'une loi ou d'un règlement dans ce cas-là. Et donc on voit bien que l'idée qui prédomine, c'est vraiment protéger les individus et non pas faire des bénéfices. Donc voilà, ça c'est ma réponse. J'ai essayé d'être le plus sincère possible, mais évidemment, il y a des gens que j'admire beaucoup. Et ça, c'est d'ailleurs une personne que tu m'avais recommandé de voir. Je parle de Jaron Lanière. Et je te remercie parce que c'est vraiment une personne brillante. Et lui, à l'opposé, il dirait dans un monde parfait, eh bien, on pourrait vendre avec dignité ces données personnelles. Alors, je te laisse le présenter parce qu'en réalité, c'est ton...
Non, s'il te plaît, Alice, continue, parce qu'on avait déjà parlé de lire un petit extrait de cet essai de M. Lanière, mais vas-y, Alice, s'il te plaît.
Ok, si tu veux, je te le lis. Dans ce cas, ça nous avait vraiment bien plu toutes les deux.
Oui, pour notre audience, je veux juste dire que il s'agit d'un essai publié au magazine de Harvard. oui, c'était le mag. Je vais partager les liens avec notre audience, mais le titre de cet essai, c'est A Blueprint for a Better Digital Society, qui en français, ça serait un plan d'action pour une meilleure société digitale. Mais vas-y, Alice, l'extrait. Oui.
Alors, il dit que le droit à la vie privée, sans droit économique, repose sur des concepts de consentement. qui n'ont pas de sens lorsque les utilisateurs des données sont devenus hautement techniques. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, on est tellement dans quelque chose, dans un univers de technologique hyper développé que la majeure partie des gens ne comprennent rien. On est dans ce qui s'appelle obscur, imprévisible et psychologiquement manipulante. Le réalisme cognitif est la meilleure réponse aux préoccupations en matière de vie privée. Une fois que les individus auront accès à des outils expliquant les données présentes dans leur vie, ils exigeront le contrôle de ces données et seront en mesure de les contrôler. Effectivement, c'est brillant parce qu'en fait, ça part du principe, c'est ce qu'on appelle un consentement éclairé, c'est d'avoir d'abord une information, donc qu'est-ce qu'on va faire avec vos données, comment on va les utiliser, combien de temps elles vont être conservées par exemple. Et à partir de là, une fois que vous avez bien pris conscience de ce qui va être fait avec vos données personnelles, vous pourrez donner votre consentement, mais pas uniquement. Vous pourrez aussi en tirer un bénéfice, parce que c'est pareil. Nous, on est des êtres humains, on a un cerveau. Quand on est dans une activité, on le fait avec un certain intérêt. Là, c'est pas simplement dire « oui, je veux bien ». On fasse ça avec mes données, on va dire oui, je veux bien parce qu'en fait, moi, je veux en tirer aussi un bénéfice. C'est pour ça qu'il dit vendre avec dignité, c'est un peu son idée. Et nous, ça nous avait bien plu parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, la réponse à faut-il vendre ses données personnelles, elle n'est pas oui ou non. Elle pourrait être entre les deux. Donc, on pourrait appliquer un régime partiel. Oui, je vends mes données personnelles, j'en tire un bénéfice. Et en plus, je garde cette donnée personnelle, elle ne se séparera jamais de ma personne, comme tu l'avais bien dit au début du podcast, parce qu'en réalité, elle est intrinsèquement liée à ma personne.
Merci Alice, et merci pour avoir cité M. Laurent
Lénière. Plaisir partagé.
Merci de partager, oui. Et donc, avant qu'on arrive aux conclusions, je vais te poser une question, qu'en fait, c'est la question du titre de ces podcasts. Donc, faut-il vendre des données personnelles? Alice, est-ce que vous accepteriez de vendre vos données personnelles?
Alors, bon, moi, personnellement, déjà, j'ai du mal à vendre mon ordinateur que j'ai depuis 12 ans. Alors, je ne sais pas si tu peux imaginer vendre une donnée personnelle, ça risque d'être compliqué, mais c'est très personnel. Mais sur un point de vue un tout petit peu plus sérieux, c'est vrai que moi, je serais plutôt sur non, je préférerais pas vendre mes données personnelles parce que je trouve qu'on est déjà dans une société qui est très sous les feux de comment dire, j'ai perdu mes mots, qui est déjà beaucoup sous les feux des projecteurs, voilà exactement. Et donc je pense que déjà avec l'activité que j'ai régulièrement avec mes réseaux sociaux, LinkedIn, de temps en temps, c'est vrai, je vais sur la page Facebook, je peux aller sur Instagram. C'est déjà énorme tout ce que je partage comme données. Maintenant, si tu me disais, oui, mais admettons que toutes ces données, Facebook, Instagram, LinkedIn, ça ne passe pas inaperçu, tu pourrais aussi en récupérer un bénéfice évaluable en argent. Bien sûr que je te dirais, ça pourrait être intéressant. Mais est-ce que ça fonctionnerait vraiment? Parce que j'en tire déjà un bénéfice. LinkedIn, ça me permet d'élargir mon réseau professionnel. Facebook, ça me permet d'élargir mon réseau, on va dire, personnel, d'amis, mais aussi d'avoir accès à des sources d'informations. Donc, si ces plateformes, elles sont déjà dans un certain bénéfice, elles ne vont forcément pas accepter, en plus, de me donner de l'argent. Et encore une fois, qu'est-ce que ça va être comme argent? Si c'est pour gagner 2 euros, bon, oui, d'accord, sur le principe, mais c'est pas beaucoup. Donc, pour répondre rapide. Je suis plutôt à dire que c'est pas. Non, je préférais pas. Voilà.
D'accord. Donc, tu supportes l'idée de M. Laurent Lanière par rapport à avoir dignité des données.
Exactement. Voilà. Exactement.
Moi aussi. D'ailleurs, mais j'ai des mauvaises nouvelles pour toi parce que tu as déjà vendu tes données à LinkedIn, à Facebook. Donc,
c'est pire que ça. Je les ai données, je ne les ai même pas vendues parce que j'ai récupéré aucun argent en échange. Donc, ouais, ma mauvaise nouvelle, ouais, tu as totalement raison.
Donc, pour conclusion, Alice. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec l'audience, dans un dernier mot, avec l'audience, quelles sont tes recommandations?
Alors, moi, j'ai tendance à toujours recommander aux gens, je sais que ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile parce que c'est un peu technique, c'est un peu juridique, ça reste encore un peu obscur, mais je pense que ces entités-là, elles essayent d'être le plus éclairantes possible sur la question. Et donc, je me réfère à la CNIL. Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et aussi, vu qu'on est au Mexique, on a l'INAI, qui est l'Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bon, c'est l'équivalent de la CNIL, on va dire, au Mexique. Et ces deux entités-là, elles essayent le plus possible de diffuser de l'information sur les données personnelles. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous alliez vous informer auprès de ces entités-là, que vous alliez surfer un peu sur leur page pour voir ce qu'elles disent, parce que comme ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'est une donnée personnelle, de ce quels sont vos droits. Si jamais vous avez l'impression que vous avez eu un droit, enfin vous avez une donnée personnelle qui n'a pas été utilisée en fonction de du consentement que vous avez donné, vous pouvez toujours faire appel à la CNIL ou à l'INAI pour pouvoir avoir un support, une aide sur ce qui est, quelles sont les prochaines étapes à suivre pour pouvoir être dédommagé éventuellement. Donc vraiment, ce sont des plateformes idéales pour en savoir un petit peu plus sur cette question de données personnelles. Et puis voilà. Ça serait ma recommandation principale.
Merci Alice. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur Privacy Watchers. J'espère qu'on puisse en parler plus souvent. Est-ce que tu veux partager tes réseaux sociaux avec notre audience ou tu préfères de rester en vie privée?
Alors, j'ai déjà dit que j'avais un compte Facebook et Instagram, mais malheureusement, je ne vais pas partager ces comptes-là sur Privacy Watcher parce que je pense que c'est plus professionnel que personnel. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn à mon nom, donc Alice Oliva. Voilà.
Alice, merci beaucoup. À bientôt.
Non, c'est vraiment moi qui te remercie. C'est un honneur de pouvoir passer sur Privacy Watcher. Je vous écoute depuis l'épisode numéro 1. J'adore ce que vous faites. Je trouve que c'est toujours, il y a des invités de qualité qui abordent des thèmes hyper important. Donc vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion, donc là je m'adresse à l'audience, à écouter les autres épisodes, allez-y, c'est brillant, on vraiment passe un bon moment. Donc le plaisir est complètement partagé et ça a été un honneur.
Merci Alice. Le seul problème, c'est que le podcast est en espagnol et celle-ci, c'est la seule émission en français, mais on va essayer de reprendre ce type de discussion avec notre française.
Alors, je sens que je vais être réinvitée, alors je suis trop contente. Quand tu veux.
Bien sûr, Alice. Donc, à bientôt.
À bientôt, Daphné. Au revoir.
En Privacy Watchers, somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com. En Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.